Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 19 avril 2025, épisode 260, en direct de Versailles. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, faut-il abandonner le concept d'erreur humaine ? Björn Tor Elsøy du CERT Craft invite les équipes CERT et CICIRT à repenser l'usage de l'expression erreur humaine. CryptPad, une version plus rapide, modulaire et mobile friendly, la suite collaborative chiffrée open source. Reprise du financement du programme CVE, je reviendrai sur un article que j'ai écrit. Threat Hunting, pourquoi votre CERT doit passer à la chasse proactive ? Boîte à buse, une gestion négligée mais critique. Un autre article que j'ai retenu, la prévision CVE T2 2025, plus de 11 000 vulnérabilités attendues. Une faille critique dont le plugin Download Manager permet de supprimer arbitrairement des fichiers. Un plugin WordPress permet l'upload de fichiers sans vérification, c'est la CVE 2021-44055. Toutes les versions d'item WordPress IEUP sont vulnérables à une attaque par fichier image injectée. Et encore une élévation de privilèges sur UrbanGo Membership jusqu'à la version 1.04. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien nous manquer. La numéro 8 est sortie ce midi. Je tiens à vous rassurer, chères auditrices et chers auditeurs, l'épisode spécial aura bien lieu. Je l'enregistre dans une demi-heure et nous en parlerons de l'actualité du MITRE et de la remise en cause du programme CVE qui arrive quand même à sa 26e année. Mais revenons à l'actualité de la cybersécurité. Dans cet épisode, je vous propose un éclairage structuré sur plusieurs sujets d'actualité en cyber. Tous les contenus abordés aujourd'hui sont disponibles en accès libre sur LinkedIn. Je vais me faire un peu d'autopromotion, mais ils visent vraiment à alimenter les réflexions et à partager des éléments concrets qu'on a en tant que professionnel du secteur. Le premier, j'ai fait un article sur la reprise du financement du programme CVE, et cette première analyse revient sur une information majeure. C'est la reprise temporaire du financement du programme CVE, ce référentiel qui est fondamental pour nous professionnels, pour la gestion des vulnérabilités, a failli être interrompu suite à une décision du gouvernement américain. Une extension exceptionnelle a été obtenue jusqu'à mars 2026, mais cet événement révèle la fragilité d'un écosystème pourtant central et souligne l'importance de construire un modèle de gouvernance plus résilient. C'est dans cette optique que la CVE Foundation a été officiellement constituée. Je vous proposerai de revenir dessus avec un enregistrement spécial qu'on va faire avec Wilfried Pascoe, qui est un expert en vulnérabilité. C'est pas mal. Vous avez l'article sur LinkedIn si vous souhaitez avoir des compléments d'informations. C'est gratuit, profitez-en. Autre sujet que j'ai publié, c'est le threat hunting. Il s'agit d'une méthode de détection proactive, complémentaire aux outils de détection automatique et classique. En posant des hypothèses sur des comportements suspects ou atypiques, les équipes de sécurité renforcent leur capacité à identifier des compromissions silencieuses. Alors cet article rappelle pourquoi cette pratique est aujourd'hui indispensable dans les environnements critiques comme elle s'intègre aux démarches de réponse à incidents. C'est court, c'est précis. Je vous le recommande. Bon, je ne vous le cache pas, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est surtout le fait que j'ai voulu faire un article qui soit actionnable. Je vous souhaite une très belle lecture. Et faites-moi un retour si vous avez trouvé ça intéressant ou au contraire, vous avez dit « Non, c'est naze, on ne veut pas en entendre parler. » quoi. Dans une autre contribution, j'aborde la gestion des emails adressés aux boîtes à bus. C'est quelque chose qui est souvent négligé. Cette interface reste pourtant essentielle pour les signalements liés à l'usage malveillant de noms de domaine ou de pratiques non, légites. Et l'article propose une approche structurée basée sur les risques allant de la configuration technique à la réponse opérationnelle. Il vise aussi à rappeler que cette gestion fait partie intégrante d'une posture de sécurité complète, notamment dans le cadre de la réputation de domaine. Il y a pas mal de sources que j'ai mis en annexe de l'article. Je vous souhaite une très belle lecture. Je reviens sur une autre publication qui est, selon les données du First, on a plus de 11 000 CVE qui pourraient être publiés d'ici fin juin. Ce chiffre, bien qu'estimatif, sert à anticiper les pics d'activité des équipes de cybersécurité, en particulier de patch management. L'article met également en lumière les difficultés rencontrées actuellement par la base NVD, avec des délais de traitement et des erreurs de date de publication qui viennent perturber les modèles statistiques utilisés. Et pour conclure, chacun de ces articles a été conçu comme un point d'appui pour la réflexion collective, en lien direct avec les préoccupations des équipes de sécurité, en particulier si vous êtes dans une équipe de réponse à incidents, que vous soyez un CERT, un SOC ou un CCIRT, voire un RSSI, vous pouvez les consulter sur mon profil LinkedIn. Ils sont accessibles. Bon, c'est samedi, je peux me permettre, ça s'appelle de l'autopromotion, mais vu que c'est gratuit, que je ne demande rien en échange, donc quelque part l'autopromotion, elle n'est pas terrible. J'ai voulu faire des articles sur LinkedIn en plus du podcast. c'est parce que par rapport à des questions qu'on me pose. Et le podcast est hyper intéressant parce que comme j'ai pu le constater, vous êtes très nombreux à faire autre chose pendant que vous l'écoutiez. Moi, ce que je voulais, c'est que vous puissiez avoir un petit référentiel, mais rapide. Au début, je m'étais dit, bon, je vais faire quelque chose sur entre 5 et 10 pages. C'est trop long, 5 ou 10 pages, on n'a pas le temps de les lire, c'est pas vrai. Donc, mon objectif, c'est de faire maximum une page et demie, voire deux, mais surtout vous donner des sources. C'est-à-dire que c'est de vous donner envie de creuser sur un sujet. Le sujet vous intéresse, c'est top. Vous avez les sources. Je vous ai toujours mis les sources en bas de tous mes articles. Comme ça, vous savez comment je les ai construits. Il n'y a pas de. Je me suis levé un matin, tiens, j'ai une idée, je vais l'écrire sur un bout de papier. Je ne vérifie pas de source, c'est pas sourcé, c'est. Non, ça, c'est juste. Là, ça s'appelle de l'arrogance. Donc, je vous souhaite quand même une très belle lecture. Puis, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est quand même du boulot de faire ces articles. Et je me rends compte que quand je regarde à la fin de la semaine le nombre d'heures que j'ai passées à publier ces articles, publier, ça prend 30 secondes, hein, mais écrire, rechercher les sources, bah, je me rends compte que je crame quand même plus d'une journée et demie quand même sur la semaine. J'attends vos retours. Je vous propose une synthèse des vulnérabilités critiques publiées le 19 avril 2025 et qui affecte plusieurs extensions de WordPress. Alors eux, ils ont mangé aujourd'hui. Alors, toutes présentent un niveau de sévérité élevé critique. C'est-à-dire que c'est des scores CVSS de 9, 8 à 10. La première, c'est la CVE 2025-3404, c'est le WordPress Download Manager. Ce plugin, Download Manager, est vulnérable à une suppression arbitraire de fichiers via une validation insuffisante des chemins dans la fonction Save Package. Le score CVSS, c'est 10. Le risque, suppression de fichiers système, compromission complète de l'intégrité du site. Le correctif n'est pas encore disponible à l'heure de la publication. Je vous recommande de la regarder si vous avez du WordPress Download Manager. Mettez la surveillance en place. La seconde vulnérabilité, c'est la CVE 2021-44055. C'est le Smart Product Review Plugin. C'est le plugin Smart Product Review qui autorise des téléversements de fichiers arbitraires en raison de l'absence de filtrage de type MIME. Score CVSS 9.8, on est quand même sur du très chaud patate. Les risques, exécution de code à distance, prise de contrôle du serveur via des scripts malveillants, toutes les versions sont potentiellement concernées. Là, il faut patcher. La troisième CVE, la 2025-1093, elle affecte le thème WordPress AI Hub. Le thème AI Hub est vulnérable à une exécution de code à distance via la fonction Generate Image en acceptant des fichiers sans vérification de type. Score CVSS 9.8, risque majeur d'exploitation par téléversement de web shell ou script PHP malveillant. Cette faille affecte toutes les versions actuellement disponibles. Attention, il faut patcher. Et enfin, la dernière, le plugin UrbanGo Membership qui est de la CVE 2025-3278. Les versions qui sont impactées vont jusqu'à la version 1.04. Ça souffre d'une élévation de privilèges via un contrôle défaillant des rôles utilisateurs. Alors, c'est surprenant, son score CVSS est seulement de 8.8. Les utilisateurs authentifiés, c'est pour ça que ça a baissé un peu, il faut être authentifié. Ils peuvent obtenir des contrôles des droits administrateurs, désactiver temporairement l'extension ou restreindre les inscriptions si vous utilisez le UrbanGo Membership plugin. Je vous propose maintenant une réflexion essentielle pour notre métier. Et si l'expression « erreur humaine » n'était qu'un raccourci commode mais fondamentalement peu utile pour comprendre les cyberincidents ? C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire quand il y a un cyberincident, le sujet vient entre la chaise et le clavier. Dans une tribune publiée par Bjørn Tore Elsøy, analyste chez Ocraft Cert et coprésident du groupe First sur les facteurs humains, cette idée est décortiquée avec justesse. Beaucoup de rapports comme le Verizon Debir 2024 ou les publications de l'ENISA avancent que plus des deux tiers des incidents de sécurité impliquent un facteur humain ou non malveillant. Et ce constat pousse à désigner l'humain comme le maillon faible ou pire, à l'assimiler à une menace interne même lorsqu'il s'agit d'une erreur non intentionnelle. Mais est-ce vraiment pertinent ? Bjørn Tore Elsøy nous rappelle que les humains ne sont pas conçus pour détecter des homoglyphes dans une URL à l'œil nu. Qu'on le veuille ou non, nos limites cognitives ne sont pas des anomalies. Elles font partie intégrante de notre fonctionnement. Prenons un exemple concret. L'arrêt brutal de l'exploitation des macros VBA par les attaquants. Ce n'est pas une soudaine prise de conscience des utilisateurs qui l'a provoqué, mais une décision technique. Microsoft a désactivé leur exécution par défaut. Ce que l'auteur défend, c'est un changement de paradigme. Plutôt que d'incriminer les individus, il faut analyser les actions et les contextes. Il plaide pour des modèles plus riches, plus précis, empruntés notamment aux sciences et la sécurité. Enfin, il encourage la communauté, en particulier les membres du First, les équipes CERT et CECIRT, à questionner l'usage des termes comme « erreur humaine » ou « insider non intentionnel ». Car à force de pointer du doigt l'utilisateur, on néglige des leviers bien plus efficaces. Le design, l'ergonomie, la conception du système. L'humain n'est pas un bug, il est une variable complexe, adaptative, irrégulière, mais fondamentalement intéressante. Et c'est une complexité qu'il faut intégrer dans nos modèles si nous voulons mieux prévenir, analyser ou réagir face aux incidents. Ayez confiance ou pas. Bon, personnellement, j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça passionnant, je suis le groupe de travail de cette personne, c'est hyper intéressant, mais on reste quand même, pour moi, il ne met pas l'accent sur un point important, c'est la compétence. Quand un administrateur met un réseau d'administration en live, sans aucun filtrage sur Internet, ce n'est pas un problème d'humain. C'est une personne qui mérite d'avoir une formation. Voilà, je n'ai pas le droit de le dire à l'antenne. Je vous propose de vous parler maintenant d'un projet open source qui a bien avancé en matière de cybersécurité. Et ça prouve qu'on peut s'affranchir de certaines solutions collaboratives anglo-saxonnes. C'est la suite collaborative open source CryptPad, qui vient de publier sa nouvelle version, la 2025.3.0. Toujours chiffrée de bout en bout, sans collecte de données, cette plateforme continue de se positionner comme une alternative sérieuse aux outils bureautiques classiques, notamment pour les environnements sensibles ou attachés à la confidentialité. Il n'y a pas de nouvelle application, mais il y a des évolutions significatives dans cette version. Cette mise à jour ne propose pas d'outils majeurs, mais elle marque une étape importante dans la modernisation de la plateforme. Le code a été retravaillé pour offrir plus de rapidité, de modularité, de maintenabilité à long terme. Une expérience utilisateur renforcée, surtout sur mobile, le système de chiffrement a été repensé. Désormais, le document demandé s'affiche en priorité tandis que le reste du contenu se charge en arrière-plan. Le résultat est flagrant. C'est un accès plus rapide aux documents, moins de latence sur mobile et une fluidité accrue pour les utilisateurs avec des espaces disques extrêmement importants. Compatibilité avec les formes Office en bêta, à la demande des utilisateurs, CryptPad propose désormais des éditeurs compatibles DocX, ODT, PPTX et ODP, disponibles même pour les comptes gratuits. Et ce travail est porté par Wolfgang Ginolas, élargit clairement l'utilité de la plateforme pour la bureautique collaborative. C'est vraiment une belle avancée, ce sont des solutions open source qui méritent d'être creusées. Bien entendu, il y a quelques limitations, c'est un projet qui est de plus en plus actif. Alors dans les limitations, ce qu'on peut voir, c'est que la mise à jour vers OnlyOffice V8 initialement prévue est reportée à la version 2025.3.1. L'équipe préfère attendre une intégration stable pour éviter toute rupture ou perte de données. On est vraiment dans du qualitatif. On n'est pas là pour faire du buzz, pour faire de l'annonce, pour être numéro 1 sur YouTube. Ils s'en foutent complètement, les mecs. Eux, ce qu'ils veulent, on met en place un système qui est là pour remplacer grosso modo Office 365 ou la suite de Google. Et c'est de l'ambition. C'est un projet qui est toujours de plus en plus actif. Il y a quand même 2 millions de pads. C'est comme ça qu'on appelle les projets CryptPad ouverts par mois. On a 200 000 utilisateurs mensuels, plus de 1400 instances auto-hébergées et il y a plus de 1000 abonnés qui soutiennent financièrement ce développement. Je vous recommande de tester, c'est hyper intéressant, c'est sur cryptpad.fr, j'ai mis les liens dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi contribuer via un don qui s'appelle Open Collective. Bref, projet open source, passionnant. Quand on parle de souveraineté numérique, quand on dit oui, on aimerait bien avoir des solutions européennes, bah c'est fin, on en a une. Bon, elle n'est pas au niveau d'Office 365, il faut être très clair. Mais vous voyez, il y a seulement 1000 abonnés qui soutiennent financièrement. Imaginons un seul instant que chaque entreprise donne 10 euros, ne serait-ce qu'en France, on donne 10 euros dans ce genre de projet, mais demain matin, on a un Office 365 qui tue, quoi. Et on peut se passer comme ça des GAFA. Bon, je ne ferai aucun autre commentaire. Et voilà, cet épisode de Radio Sessor du samedi 19 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Sessor au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiosessor@gmail.com. J'ai trouvé le moyen comment vous allez gagner les tablettes de chocolat. Ça sera demain dimanche que vous aurez je vous donnerai ça, on va faire une sorte de concours. Mais très sympa, hyper facile. Là, j'ai une petite idée sur le fait de... Il faudra laisser des messages sur les répondeurs. Et le message le plus sympa, bah, ils se verront offrir une tablette de chocolat de pratiquement 600 grammes de chocolat. Avec les emblèmes de Radio Sessor. Il y aura des autocollants à gagner, des mugs, les t-shirts. Pour le moment, j'en ai que deux. J'attends la livraison j'en ai commandé une vingtaine. Donc dès que j'aurai les t-shirts, ça sera aussi en plus. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Sessor au format vidéo, ce qui est quelque chose de totalement différent. La cagnotte Litchi est ouverte. Je suis super content. On est à 1 700 €. J'en reviens toujours pas. J'ai été faire un tour à la Fnac pour les caméras. Ouais. Bon, alors j'ai baissé mes ambitions, parce qu'au début j'avais un super objectif. Bon, 3009 l'objectif, j'ai fait, bon, non, en fin de compte on va faire ça simple, hein. On va prendre une webcam. Je vous tiens au courant.
D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas.
Je pars faire l'enregistrement avec Wilfried, parce que je suis un peu à la bourre, et je dois faire le montage.
On se retrouve tout à l'heure pour un nouvel épisode, ce sera l'épisode spécial sur les CVE. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio Cessert. Je vous souhaite un très beau samedi du week-end de Pâques. Profitez-en bien, faites attention à vous. À tout à l'heure, ou au revoir pour ceux qui me verront que demain.